Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette soirée. On hésitait entre la précision suisse et le quart d'heure hergécien, donc finalement, ça va, on n'est pas trop en retard. Bienvenue à vous tous et bienvenue particulièrement à vous, notre orateur, M. Jean-Claude Basset. Il m'incombe de présenter, d'introduire la soirée et de présenter brièvement notre orateur. Mais manque de peau, je ne le connais pas. C'est la première fois que je le rencontre, peut-être comme vous autres. Alors j'ai quand même fait un petit tour sur Internet. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez fait un tour sur Internet. Alors, pour introduire notre orateur, on pourrait décliner tous ces titres qui le présentent et qui disent quelque chose sur lui. Parmi les titres, j'ai trouvé docteur en théologie, pasteur à Genève, chargé de cours sur l'islam à la faculté de théologie de Lausanne, auteur de plusieurs ouvrages, spécialiste du dialogue interreligieux, et j'en passe. Autant dire que nous avons le privilège ce soir d'entendre ce qu'on appelle une pointure. D'autant que notre orateur était aussi pasteur en Iran et à Djibouti. Il est donc très bien placé pour nous parler de la situation des chrétiens en Orient, une thématique d'actualité, vous en conviendrez. Alors sans plus tarder, je lui laisse la parole pour un exposé à l'issue duquel nous aurons aussi un temps de questions-réponses. Merci d'avance et bonne soirée.
Merci de ces mots d'accueil et de votre présence qui est toujours un défi. Là, je me retrouve dans une chaire, non pas pour prêcher, mais pour partager un certain nombre de préoccupations. Alors peut-être quelques mots au-delà, bravo pour la recherche sur Internet. En fait, il faudrait remonter un tout petit peu plus haut. Chez moi, le déclic a été juste après les études de théologie. J'ai, avec ma femme, eu une bourse du Conseil œcuménique pour aller étudier en Inde. Et c'était véritablement la découverte de la diversité religieuse. Et je dirais qu'après cette expérience, une année dans un collège au sud de l'Inde, mais aussi à travers le pays, c'est là où j'ai vécu mes premières expériences de dialogue. Et je dirais qu'après, j'ai plus pu ni vivre ni prêcher ma foi sans tenir compte de cette extraordinaire richesse religieuse, culturelle, civilisationnelle de l'humanité. Et il m'a paru essentiel de resituer notre discours, notre témoignage chrétien dans ce contexte qui a éminemment changé par rapport à l'étape où on pouvait parler d'une chrétienté. Et ça, je l'ai vécu. Alors effectivement, mon premier poste de pasteur a été à Téhéran. Dans Téhéran, 76-78, on est avant la révolution iranienne, au service d'une modeste église évangélique en Iran, où j'ai aussi découvert cette ambiance pré-révolutionnaire, et puis cette tradition chiite dont je savais pratiquement rien. 78 à 80, nous nous retrouvons, ma femme et moi, à Djibouti. C'est toujours l'islam, mais l'islam sunnite, on est dans la corne de l'Afrique. Et puis là, découverte de la situation post-coloniale et d'une infime minorité protestante dans un pays très largement musulman. Si bien qu'au retour, en 80, nous sommes rentrés et j'ai pris un poste pastoral à Genève. Mais j'ai aussi eu l'envie d'approfondir. Quels sont ces enjeux d'une relation qui ne serait plus d'hostilité, mais d'ouverture et de dialogue? et j'ai eu la chance d'avoir une bourse du Fonds national de la recherche scientifique pour étudier ce thème du dialogue interreligieux. C'est donc le sujet de ma thèse, c'est pas si j'en suis un spécialiste pour autant, mais j'ai essayé de voir d'où vient cette idée de dialogue et quels en sont les enjeux. Mais bien sûr, de tout temps, la question de l'islam et des relations islamo-chrétiennes m'a largement préoccupé. Et au terme de ma thèse, j'ai voulu mettre ce dialogue en action, avec en particulier une plateforme interreligieuse à Genève, et puis aussi l'idée d'un calendrier interreligieux où on présente les fêtes des différentes traditions, et en même temps le regard que ces traditions religieuses portent sur une thématique, que ce soit la fête, les écritures, différents thèmes, le pèlerinage, etc. Convaincu que nous devions mieux nous connaître, qu'il y avait un fossé à combler. Et je dirais que l'expérience, je reste convaincu, positive. Et pourtant, la question de l'islam n'a cessé de prendre de l'importance. Et je dirais que nous nous sommes éloignés. Alors peut-être, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'idées toutes faites. Mais au fond, la question des relations entre musulmans et chrétiens semblait plus ou moins aller de soi. Alors que les années avançant, et je pense bien sûr à la prise de conscience qui a suivi la révolution iranienne, mais encore plus gravement, bien sûr, les attentats de New York et de Washington, ont creusé un fossé, au point qu'on peut se demander si ce vivre ensemble, ce partage, est encore réaliste. Juste encore pour me situer, avant d'entrer dans le vif du débat, je me suis engagé, notamment au niveau européen, dans le cadre de la conférence des églises européennes qui avait un comité islam en Europe, œcuménique, conjoint, catholique et keck, c'est-à-dire protestant et orthodoxe, qui a été pour moi une superbe leçon, un apprentissage constant en découvrant les diverses formes de présence musulmane à travers l'Europe. Et puis, un autre engagement est, lui, en Afrique, où la question des relations islamo-chrétiennes, en particulier après les indépendances, a pris une nouvelle importance, y compris dans le débat missionnaire. Et on évoquait au repas la figure de Pierre Benignus et donc ce programme de relations islamo-chrétiennes en Afrique qui a son siège à Nairobi vient de fêter ses 40 ans et s'efforce de rapprocher chrétiens et musulmans, mais je devrais dire aussi chrétiennes et musulmanes, puisqu'il y a un programme de femmes, et d'évoquer des situations, celles qui viennent faire la une de nos journaux, que si je dis Boko Haram, si je dis le Soudan ou la Somalie, et malheureusement, on pourrait citer encore d'autres cas où le fossé est plus profond que jamais. Dernier élément, et c'est probablement celui qui m'a valu le plaisir d'être invité ici, c'est après avoir été en Iran, je suis resté en contact avec les églises du Proche-Orient. Ces églises d'où est né le christianisme, qui vivent une situation minoritaire depuis des siècles et qui se voient aujourd'hui particulièrement bousculées, avec lesquelles je crois qu'il est essentiel de manifester notre solidarité. Que ce soit des églises protestantes au Liban, que ce soit en Syrie, on parle bien sûr de la Syrie, en Égypte, mais aussi naturellement en Iran, où j'ai eu l'occasion de retourner à plusieurs reprises, y compris, ça vous étonnera peut-être, dans le cadre d'un programme de dialogue entre d'une part le Conseil œcuménique des églises, ici à Genève, et un centre de dialogue interreligieux constitué en Iran. Et nous avions, au mois de septembre, notre sixième rencontre, une fois en Iran, une fois en Suisse. Voilà un tout petit peu pour situer les centres d'intérêt, puis s'il y a d'autres questions, je serai à votre disposition. Et venir au plan que je me propose d'aborder avec vous, avant d'engager le dialogue. Je disais au début, pour moi, l'intérêt premier, c'est évidemment l'échange qui va suivre les pistes que je pourrais tracer devant vous. Alors en plan, j'ai imaginé 5 parties. D'abord, quelques remarques concernant le contexte actuel du Moyen-Orient. Une deuxième partie sur la question des minorités religieuses et de la liberté. Troisième partie sur les chrétiens dans le monde musulman. Et puis, un mot, je vous dirai pourquoi, il me paraît important de dire un mot sur les musulmans en Europe. On parle des chrétiens au Proche-Orient, mais je crois que c'est aussi important d'aborder la question des musulmans en Europe pour terminer en guise de conclusion par ce que j'appellerais un appel à, au fond, un engagement commun de nos minorités respectives. Donc, première partie, quelques réflexions sur le contexte actuel du Moyen-Orient. J'ai mentionné dans mon introduction la date du 11 septembre 2001, qui pour moi marque un tournant avec cette manifestation extérieure de l'extrémisme musulman d'Al-Qaïda, qui depuis lors a fait des émules dans bon nombre de pays, en particulier chez des jeunes entraînés au djihad, le djihad ici pris au sens d'un combat contre l'Occident ou contre les croisés, c'est le terme qu'on utilise, en même temps que contre les juifs, et qui crée ce climat de choc des civilisations qui est peu propice à un dialogue. Et je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et se demander est-ce que véritablement le choc des civilisations n'est pas finalement une sorte de prophétie qui tend à se réaliser parce qu'on y croit et que Bush a besoin de Ben Laden comme Ben Laden avait besoin de Bush et en quelque sorte se renforçant l'un l'autre au détriment de ce qui nous est commun, d'une humanité commune et où on verrait que ces civilisations qui sont en conflit au fond sont bien plus éclatées et la réalité bien plus complexe que celle qu'en tout cas les médias nous présentent. Deuxième élément, c'est la question au fond de la situation politique du Moyen-Orient où jusqu'à une époque toute récente, on avait une grande majorité de régimes autoritaires où les droits des populations, et j'insiste sur le mot « population », ne sont pas respectés. Et, disons-le honnêtement, avec au minimum l'appui tacite, parfois l'appui actif, de l'Occident, pétrole oblige pour dire les choses un peu rapidement. Au Moyen-Orient, c'est l'échec du nationalisme, incarné par quelqu'un comme Gamal Abdel Nasser, mais dans les autres pays aussi, cette vague nationaliste dans laquelle les chrétiens se sont souvent activement impliqués, cède la place au courant islamique ou islamiste. Anwar el-Sadat, que l'on met en exergue, il ne faut pas l'oublier, qu'en Égypte en tout cas, c'est lui qui a encouragé le développement d'un islamisme militant. Résultat, on assiste un peu partout, pour ceux ou celles qui ont l'occasion de voyager au Proche-Orient, à une véritable islamisation de la société. Je dirais que le marqueur de départ, c'est certainement 1979 et la révolution iranienne, qui a été une sorte de choc, puisque l'image qu'on avait avant, c'était d'un islam assez passif, incapable de faire face aux défis de la modernité. Et tout d'un coup, à la fois donné du courage, a été un stimulus notamment pour les sunnites, voyant que les chiites étaient capables de renverser un pouvoir, celui du Shah, soutenu par les États-Unis, mais bon nombre de pays européens aussi. Troisième remarque, il y en aura cinq, c'est une frustration profonde face à la mondialisation. La mondialisation est une réalité à laquelle nous sommes tous et toutes confrontés à un degré ou à un autre, mais qui au Proche-Orient a une sorte de double face. À la fois, elle est dénoncée comme une ingérence, comme une aliénation, et en même temps, on l'utilise, elle attire. Même dans un pays comme l'Iran ou les États-Unis, c'est le grand Satan, eh bien, on regarde les programmes américains, on aspire que ce soit les films, que ce soit la musique. Et au fond, le modèle est tourné entièrement vers l'Occident. Dans cette frustration, on a une assimilation des chrétiens aux Occidentaux. Et je dirais qu'il remonte probablement, évidemment à la colonisation, mais probablement jusqu'aux croisades. Et le fait que ce mot de croisé continue d'être utilisé est, à mon avis, assez révélateur. Frustration, oui, mais c'est aussi renforcé par un rapport de force qui est toujours au désavantage du Proche-Orient, ou du Moyen-Orient, si je veux élargir un peu. Un exemple dont on ne mesure pas toujours l'impact, c'est l'invasion de l'Irak par les Américains, sous un faux prétexte, ces fameuses armes de destruction massive. C'est aussi l'intervention en Afghanistan, entraînant de nombreux morts, tous musulmans, ce qu'on appelle les effets collatéraux. Ajoutez à cela la persistance du conflit israélo-palestinien, et je pense qu'on peut saisir quelque chose de l'état d'esprit de bon nombre de jeunes et de moins jeunes à travers tout le Proche-Orient, et je dis d'emblée qu'ils ne sont pas tous et de loin des extrémistes. Et c'est dans ce contexte, c'est mon quatrième point, que surgit ce qu'on a appelé le printemps arabe. Tout d'un coup, la découverte d'un nouvel espace de liberté où ce n'est pas l'islam qui est mis en avant, mais des thèmes comme la démocratie, comme les droits de l'homme, comme l'égalité devant la loi. Créant en même temps un espace vide qui va être rapidement occupé par les islamistes. On a l'exemple de la Tunisie, on a l'exemple de l'Égypte, là au terme d'un processus démocratique très, très largement, en tout cas en contraste avec ce qui se passait dans le passé, et je pense notamment à l'Égypte où les élections ont toujours été des caricatures d'élections et on n'entendait pas ça trop souvent dénoncé chez nous. Il ne faut pas être surpris si ce sont les islamistes qui occupent le terrain dans la mesure où ils étaient éloignés du pouvoir ou sous haute surveillance dans un cas comme dans l'autre. Et c'est eux qui, au fond, sont le moins mêlés à ces pouvoirs autoritaires et donc saisissent leur chance après des décennies de frustration. Plutôt que de révolution, comme on l'a dit parfois, je préfère parler de rébellion du fait de la diversité des scénarios. J'ai parlé de la Tunisie et de l'Égypte, mais on peut parler des négociations menées par l'Arabie pour ce qui concerne le Yémen, et au contraire de l'écrasement de la rébellion au Bahreïn par la même Arabie saoudite. On peut penser bien sûr à l'intervention occidentale en Libye et puis l'attentisme dans le cas de la Syrie. Donc une zone de perturbation dans laquelle évidemment les chrétiens, mais ce n'est pas les seuls, sont directement ébranlés dans ce qui pouvait être considéré comme leur espace et leur point de repère. Cinquième point, qui nous touche, je crois, plus directement, c'est qu'après des décennies, au minimum, je dirais, d'un silence pudique, on assiste depuis quelques années à une prise de conscience de la fragilité des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Non seulement dans les milieux chrétiens, mais aussi dans les médias, où on va trouver les titre tapageur du genre « Chrétiens d'Orient, la valise ou le cercueil ». Les chrétiens d'Orient sont victimes d'un nettoyage ethnique. Et on pourrait continuer, je suis sûr que des sujets vous viennent à l'esprit. Mais plus sérieusement, des colloques, des publications, les séries télévisuelles apparaissent pour apporter un éclairage relativement nouveau sur la situation au Moyen-Orient. Et puis, des associations s'engagent, elles existent depuis de nombreuses années, mais elles trouvent aujourd'hui un écho nouveau, que ce soit l'aide aux églises en détresse, Porte Ouverte ou d'autres organisations actives dès lors que les droits humains et la liberté religieuse est atteinte. Voilà, un peu pour poser, mais il y aura sûrement des choses à ajouter, à compléter ou corriger. Mon deuxième point, c'est la question des minorités et de la liberté religieuse. Et là, j'élargis un peu au-delà du cadre strict du Moyen-Orient. Je dirais que, première remarque, au fond, dans la plupart des sociétés, les minorités, anciennes ou nouvelles, qu'elles soient religieuses, culturelles ou ethniques, constituent un défi à la cohésion sociale. Si elles peuvent être considérées comme une richesse ou un élargissement de l'horizon, le plus souvent, elles sont regardées comme une menace ou un danger, et malheureusement deviennent aisément les boucs émissaires en période de crise. Mais rappelons-nous que lorsque nous parlons des atteintes à la liberté religieuse, qui est un des éléments essentiels qui nous concerne, ça touche un grand nombre de pays, bien au-delà du monde musulman. Et je pense notamment à la Corée du Nord, à la Chine, à l'Inde et à d'autres pays. Et je rappelle aussi que les musulmans eux-mêmes sont victimes de répression dans ce domaine de liberté religieuse. Et là, de nouveau, je citerai l'Inde, je citerai la Chine, mais on peut penser aussi récemment à la Thaïlande ou à ce qu'on appelait la Birmanie, Myanmar. L'islam a instauré un régime particulier à l'égard des minorités qu'on appelle dhimma, c'est-à-dire un régime de protection. Ça veut dire une liberté religieuse assez large contre le paiement d'une taxe et l'acceptation de l'autorité musulmane au niveau de la société. Et cette clause était réservée aux juifs et aux chrétiens, enfin à ceux qu'on appelait les gens du livre. Et dans l'histoire musulmane, on a inclus les zoroastriens et quelques autres courants qui permettaient de vivre ensemble dans une même société et où l'aspect religieux était autogéré, que ce soit du côté juif ou du côté chrétien. Mais en même temps, dans ce statut, il y a un élément d'humiliation. Il est explicitement mentionné dans le texte du Coran. Il est important que, au fond, ces minorités n'aient pas les mêmes droits que les musulmans eux-mêmes. Et cette situation devient rapidement discriminatoire dès lors qu'il y a crise économique ou enjeu conflit politique. Néanmoins, j'aime à rappeler que globalement, c'est toujours des jugements difficiles à porter, mais je crois que globalement, l'islam a fait preuve de plus de tolérance que le christianisme. Et ce n'est pas pour s'auto-flageller, mais pensons à la manière dont on a traité les juifs, on a traité les albigeois, et puis nos guerres de religion. Et un indicateur intéressant, au moment où les juifs sont chassés d'Espagne au XVe siècle, ils vont se réfugier en terre musulmane, dans une très grande majorité, et non dans l'Europe chrétienne. Cela dit, il n'en demeure pas moins que ce régime de tolérance, dans le meilleur des cas, n'est pas à la hauteur des droits humains et de la liberté religieuse, telle qu'elle ressort de la Déclaration universelle de 1948. D'une part, l'idée même de protection n'est pas compatible avec la citoyenneté, également partagée par les uns et les autres. Et d'autre part, la protection implique un certain nombre de restrictions, à, par exemple l'interdiction de certaines responsabilités politiques ou militaires, discriminations qui vont ouvertement à l'encontre de la Déclaration universelle des droits humains. De sorte que les musulmans ont créé leur propre Déclaration universelle des droits humains, ce qui pose un autre problème. Dans le contexte musulman, les chrétiens ne constituent pas la seule minorité qui voit ses droits menacés et dans certains cas bafoués. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous limiter à une solidarité partisane, j'entends en faveur des chrétiens, mais nous engager à un respect des droits humains pour toutes les minorités. Je pense aux Baha'i en Iran, première minorité non respectée. Je pense aux Mandéens, aux Yazidis, petite minorité qu'on pourrait appeler secte, même si les Mandéens se réclament de Jean-Baptiste en Irak. Je pense aux chiites en Arabie Saoudite, mais aussi aux sunnites en Iran. Et on peut continuer ainsi la liste. Les Alevis en Turquie. Vous voyez que replacer ça, je crois que c'est important, dans ce cadre plus large. Autre remarque, ne pas considérer seulement le facteur religieux. En tout cas, il ne doit pas être isolé d'autres facteurs, facteurs politiques, facteurs économiques en particulier. Et c'est vrai que dans un contexte de tension, la tentation est grande de manipuler la référence religieuse pour renforcer l'identité communautaire, voire bien sûr mobiliser un groupe contre un autre. J'ajouterai aussi, mais je crois que c'est inutile de le préciser, que tout ce que font les musulmans n'est pas musulman, n'est pas islamique, mais tout ce que font les chrétiens n'est pas non plus automatiquement chrétien. Troisième point, et cela plus directement sur la diversité des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. On peut avoir trois approches de ces chrétiens du Moyen-Orient. Une première approche que je dirais culturelle. Des cultures traditionnelles, celles des Coptes, des Arméniens, des Syriaques, chaque fois une langue différente et une langue historique qui appartient à l'héritage du christianisme, au même titre que le grec ou le latin. Et puis, il y a des chrétiens de langue arabe ou de langue persane, de langue turque, moins nombreux. Deuxième approche, la plus classique, qui serait l'approche confessionnelle. Le Conseil des Églises du Moyen-Orient s'est organisé autour de quatre familles. D'abord la famille protestante, je dis d'abord parce que c'est l'origine de ce conseil du Proche-Orient et qui réunit les différentes églises protestantes, anglicanes et évangéliques de la région. La deuxième famille, la plus ancienne peut-être, ceux qu'on appelle les orientaux pré-calcédoniens. Je sais que c'est un gros mot, mais c'est référence à un concile de 451 que les églises qui ne parlaient pas grec, et là je parle des Égyptiens, je parle des Arméniens et je parle des chrétiens de tradition syriaque, concile qu'elles n'ont pas approuvé sur la définition de la double nature du Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et donc on a là une famille qui s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui et qui siège au Conseil des Églises du Moyen-Orient. Troisième famille, ce sont les orthodoxes, qui sont implantés au Proche-Orient depuis les débuts du christianisme aussi, et avec les patriarches traditionnels, que ce soit, alors on connaît bien sûr Byzance ou Constantinople, mais Antioche, Alexandrie et puis Jérusalem sont des patriarcats traditionnels, au même titre que le patriarche de Rome devenu le pape. Et quatrième famille, c'est la famille catholique, dans laquelle on va retrouver des églises de ces différentes traditions linguistiques et culturelles. Les coptes, il y a des coptes catholiques. Mais je vous rassure, il y a aussi des coptes protestants. Les arméniens, il y a des arméniens catholiques. Mais il y a aussi des arméniens protestants. Et on peut continuer ainsi pour décrire ces quatre familles, j'allais dire, confessionnelles. Et puis, d'un autre point de vue, c'est ma troisième approche, rapidement, on peut distinguer les chrétiens de tradition, ceux qui sont chrétiens, qui appartiennent à une tradition, même antérieure à l'islam, bien sûr. Deuxième, les chrétiens convertis. Alors, convertis du judaïsme, convertis d'une église à une autre, et bien sûr aussi convertis de l'islam, ceux qui font le plus problème au regard de la tradition musulmane. Et puis, troisième catégorie qui ne faut absolument pas oublier, ce sont les chrétiens émigrés. Il y a une émigration importante. Plus d'un million de chrétiens vivent en Arabie Saoudite, majorité des Philippins et d'autres, et qui constituent une des formes importantes du christianisme aujourd'hui au Moyen-Orient. Passons rapidement quelques pays, je ne pourrais pas faire la liste complète, en essayant d'affiner un tout petit peu le regard. Évidemment, l'Égypte est incontournable, où on a eu un régime autoritaire, avec Moubarak, qui a largement manipulé les revendications islamistes et le respect du haut copte. Les coptes qui représentent peut-être 10%, c'est la minorité la plus importante de toute la région. Ça n'empêche pas qu'il y a des personnalités importantes. Alors, on a tous entendu parler, bien sûr, du pape Chenouda et de son successeur, Tavadros II, 118e sur le siège d'Alexandrie. Mais un autre personnage, on ne peut pas l'oublier, c'est Boutros Ghali, secrétaire général à l'ONU, alors que officiellement, dans le système islamique, un chrétien ne peut pas occuper un poste de cette importance. Et en Égypte même, ayant participé au gouvernement, il était toujours accompagné d'un musulman, même si c'est lui qui faisait le travail. La rébellion de la place Tahrir a un temps, premier temps, dépasser ce clivage copte-musulman, mais a conduit à une islamisation de la société, ouvrant la voie en particulier aux frères musulmans, qui avaient été laissés dans la marge, tolérés sous certaines conditions, réprimés durement à d'autres périodes. Et puis on a la surenchère des salafistes. Je voudrais qu'on s'arrête un instant en réfléchissant. On a dénoncé le danger des frères musulmans, mais on a trouvé pire. Alors, comme on a maintenant un président qui vient des frères musulmans, eh bien, on va apprendre à faire avec un frère musulman. Mais relisons un peu ce qui était dit des frères musulmans, ce qui n'ont rien à la surenchère, aux enjeux, mais qui nous montre une société qui elle-même cherche son identité et qui a évidemment ses extrémistes. Situation difficile, et on comprend que pour les chrétiens, c'est une déstabilisation. Et l'histoire n'est pas encore écrite. Pour la petite histoire, au président Morsi, donc d'origine frère musulmane, il y a trois vice-présidents. Et quelque chose qu'on n'a jamais vu en Égypte. Parmi ces trois vice-présidents, le pire, il y a une femme. Mais il y a un chrétien. Gouverneur qui a une haute responsabilité, et la troisième personne, c'est un salafiste. Alors, c'est peut-être pas le mélange idéal, mais en même temps, ça montre cet effort d'ouverture, peut-être de rééquilibrage, l'avenir nous le dira, mais il reste que les situations sont difficiles, et en particulier, on parle beaucoup des chrétiens, mais parlons aussi des femmes et de la relation entre les droits des femmes et les droits des hommes dans cette société. Un mot sur la Palestine. Voilà un exemple classique où on a eu un combat de type nationaliste, la résistance, l'OLP, à laquelle un certain nombre de chrétiens ont activement participé, y compris avec des attentats et des prises d'otages. Je pense que Georges Habache, par exemple, quand on s'appelle Georges, on a peu de chances d'être musulman. Voilà un mouvement qui, aujourd'hui, typiquement, se trouve mis à la marge au profit de la cause islamiste. La forme radicale, notamment, du Hamas à Gaza. Les chrétiens en Palestine représentaient une classe moyenne qui s'est trouvée progressivement marginalisée et qui a émigré très fortement. Peut-être c'est aussi vrai des Libanais parce qu'il y a déjà des liens qui existent avec l'Occident et que de ce fait-là, c'est plus facile. Il reste que la vie est difficile pour les Palestiniens. Et que parmi eux, aujourd'hui, la minorité chrétienne est devenue une infime minorité qui cherche sa place, non sans difficulté. Autre image plus positive, il en faut aussi, c'est le cas de la Jordanie, où on a une minorité très limitée, mais une minorité reconnue et protégée, si on veut utiliser ce mot de protégée, en particulier par le roi. Et la Jordanie est le lieu de plusieurs initiatives soutenues par le pouvoir en place, initiatives de dialogue. Il y a eu un appel des 38 musulmans après le discours du pape à Ratisbonne. Et en 2007, c'est une lettre adressée par 138 responsables musulmans, pas seulement jordaniens, j'allais dire quasiment du monde entier, sunnites et chiites, qui est adressée à l'ensemble des églises chrétiennes. À chacune d'entre elles, les principales églises, ce message est adressé, qui est une invitation à arriver à une parole commune, c'est une formule du Coran, et qui est fondée, là c'est intéressant, sur le commandement d'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Et qui a suscité un vrai débat dans bon nombre d'instances chrétiennes, même si on peut regretter que cette lettre est moins connue parmi les musulmans. Un mot sur le Liban, dont il ne faut pas oublier la fameuse guerre civile, 75 à 90, qui n'est pas d'abord une guerre confessionnelle. Les clivages traversent, aujourd'hui encore, traversent les confessions. Et pourtant, tout le système libanais est un système confessionnel où, traditionnellement, les chrétiens devaient être majoritaires. Le Liban était organisé pour ça. Oui, mais le temps est passé, alors on évite de faire aucun recensement, mais aujourd'hui, de manière réaliste, si les chrétiens représentent 30% de la population libanaise, c'est bien le maximum. Les chiites, par contre, qui étaient... on était encore à une époque un peu féodale, était laissé à la marge, on leur avait laissé la présidence de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au contraire, ont pris de l'importance, c'est notamment le cas du Hezbollah. Et de nouveau, voilà une situation où il faut bien dire la minorité chrétienne, même si les chrétiens n'aiment pas être appelés minorité dans la région, se trouve ébranlée dans ce qui était son histoire, ses points de repère, et à la merci de pouvoirs politiques qui lui échappent. Mais encore une fois, ne mettons pas tout sur le compte du confessionnalisme chrétien ou musulman. Les divisions sont internes et on a aussi un clivage économique important. Le Liban est en même temps un lieu de dialogue, et je donnerai juste un exemple. Le 25 mars a été décrété, c'est pas si vieux, c'est il y a 2 ans, en 2010, a été décrété fête commune des chrétiens et des musulmans, le 25 mars étant la fête de l'Annonciation de la Vierge Marie, reconnue par les musulmans comme par les chrétiens. Je ne sais pas si je peux vous parler de la Syrie, parce que je n'en sais pas plus que vous, sinon qu'on souffre d'une situation impossible. Peut-être pour rappeler que là, les chrétiens ont pendant été longtemps une minorité protégée. Parce que c'était l'intérêt du pouvoir en place lui-même, s'appuyant sur une minorité alaouite. On peut bien sûr imaginer que le régime étant appelé, en tout cas bon nombre d'observateurs, régime d'Assad est appelé à disparaître, à être remplacé, la position des chrétiens sera difficile. Et aujourd'hui, ils sont eux-mêmes divisés entre partisans du renversement de Assad et puis ceux qui craignent davantage ce qui peut sortir de ce conflit. Mais pour l'instant, ils souffrent comme les autres, sous les coups des uns et des autres, puisqu'on a vu que les choses ne sont pas si simples. Et là aussi, j'ai envie de mentionner un exemple encourageant, peut-être parce que j'ai un ami très cher qui est pasteur à Alep et qui vit des heures terribles. C'est ce fameux monastère de Marmoussa, du jésuite, enfin animé par le jésuite Paolo Dall'Oglio, qui a instauré un lieu de rencontre ouvert, respectueux des musulmans et des chrétiens, et qui aujourd'hui est bien pessimiste sur l'avenir et des chrétiens et de la paix en Syrie. L'Irak est un autre exemple d'un État complètement déstructuré par la double offensive américaine, par des combats de clans, et c'est les Américains qui ont fait venir Al-Qaïda en Irak. Il n'y avait pas. Le régime, Dieu sait si on peut critiquer le régime de Saddam Hussein, était totalement opposé à Al-Qaïda. Et voilà de nouveau des chrétiens, jadis protégés, certains, Tariq Aziz, ayant des fonctions importantes, et c'est un exemple d'un chrétien, et qui aujourd'hui sont littéralement chassés de la capitale. Il n'y a plus de chrétiens à Bagdad. Ils se réfugient au nord, dans la région des Kurdes, et dans une situation extrêmement fragile, et des centaines de milliers sont partis en exil. Et le résultat, on peut le dire, c'est un raccourci, mais c'est bien suite aux invasion militaire que cette minorité chrétienne, forte de plus d'un million, est aujourd'hui totalement laminée. Mais les chrétiens ne sont pas seuls. En Irak, je vous ai mentionné l'exemple des yézidis. Les yézidis sont supposés être les adorateurs du diable. En fait, c'est leurs ennemis qui le disent, bien sûr. Mais aussi les mandéens ou sabéens dans le sud du pays, qui, eux, se revendiquent de Jean-Baptiste. Difficile que je vous dise rien de l'Iran, mais d'abord pour rappeler que la première minorité réprimée, minorité religieuse réprimée, est même interdite, et cela, c'était du temps du Shah aussi bien qu'avec Khomeini et son successeur Khamenei, ce sont les Baha'is. Ce mouvement, né au XIXe siècle, issu du chiisme iranien et qui est totalement, non seulement dénoncé, mais persécuté, au point que les droits de base des Baha'is, qui sont numériquement la première minorité, sont régulièrement bafoués. La situation des chrétiens, des juifs, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et des zoroastriens, est un peu différente dans la mesure où il y a une reconnaissance officielle. C'est des gens du livre. Ils ont un livre avant le Coran, la Torah de Moïse, l'Évangile de Jésus, ou les paroles de Zarathoustra, l'Advesta, et ont des représentants au Parlement. Mais ce n'est pas tout le christianisme. Il y a aussi l'aile des convertis, des chrétiens qui voient leur droit d'exprimer leur foi. Récemment, une grande église à Téhéran a été fermée. Les pasteurs sont mis en prison et je dirais que leur communauté est sous haute surveillance. Si vous êtes d'origine arménienne ou assyrienne, vous avez une sorte de reconnaissance tacite, puisque chrétien, et le mot assyrien est utilisé mais pas propre, c'est plutôt des chrétiens de tradition syriaque orientale, eh bien ils précèdent les musulmans en Iran et à ce titre sont acceptés. Mais les sunnites non plus n'ont pas leurs droits reconnus comme le voudrait la Déclaration universelle des droits de l'homme. Encore un mot rapidement sur la péninsule arabique, où on a deux modèles fondamentaux différents, l'un qu'on peut dire rétrograde, à l'image de l'Arabie saoudite ou du Yémen, qui interdit non seulement la construction d'églises, mais la simple réunion de chrétiens dans une maison. Et puis d'autres pays plus ouverts, timidement mais concrètement, comme le Koweït ou les États arabes unis, où des églises ont pu être construites ces dernières années. Je mentionne ça pour qu'on évite cette espèce de schéma de dire les musulmans. Non, la réalité est infiniment plus complexe, y compris la situation des chrétiens dans ces différentes régions. On déborde un tout petit peu le Moyen-Orient, mais je voudrais dire quand même un mot du Pakistan, qui est un des lieux de terribles tensions, et comme par hasard, c'est aussi un lieu où la pression occidentale s'est exercée avec toute la force que l'on peut imaginer. Et c'est une véritable crise continue que traverse ce pays. Alors sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan religieux, et avant de parler de la minorité chrétienne, il y a à dire sur la minorité chrétienne, il faut parler des chiites et des sunnites qui sont en opposition complète, avec des attentats, avec une compétition où la vie des uns et des autres est régulièrement remise en cause. Bien sûr que dans ce contexte, avec à l'arrière-plan l'Afghanistan et les talibans, la minorité chrétienne est ce bouc émissaire. Et on a tous entendu parler de cette terrible loi du blasphème qui permet d'accuser quelqu'un d'avoir abîmé le Coran ou dit du mal du prophète, et l'accusation suffit pour vous mettre en prison, et il n'est pas rare que de la prison on passe à la peine de mort. Même le ministre qui était chargé des minorités en 2010 a été tué. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien sûr que la minorité chrétienne est atteinte, mais c'est tout le pays qui est atteint et qui n'arrive pas à gérer un minimum de différences. Signalons aussi que, originaire du Pakistan, le mouvement Ahmadiyya, qui a été officiellement, c'est-à-dire par une fatwa de la grande université d'Al-Azhar, a été condamné comme non-musulman, et qui a son origine et un bon nombre de fidèles dans le Pakistan, là aussi, bien sûr, en proie à toutes les pressions que l'on sait. Je viens à mon quatrième point, il faut que j'avance un peu. C'est la question des musulmans en Europe. Je serai plus rapide, mais je crois qu'on ne peut pas parler que des chrétiens au Proche-Orient si on ne regarde pas les musulmans en Europe. Et c'est vrai que la présence de musulmans en Europe provoque un certain nombre de réactions négatives. Alors, on a vite fait de dénoncer les médias concernant l'islam en général. J'ai là la première page du point. Cet islam sans gêne exprime, je crois, une réalité qui est à la fois d'un préjugé, les musulmans en général, mais qui en même temps met le doigt sur un certain nombre de difficultés dans le vivre ensemble. Et c'est caractéristique de l'islam parce qu'il y a aussi une présence des bouddhistes qui font aussi des convertis. Mais les médias ne se sont jamais emparés du bouddhisme comme d'une menace pour la République. S'il y avait un rapprochement à faire dans ce traitement des médias, ce serait ce qui concerne les sectes, qui, elles aussi, sont capables d'attirer les condamnations et les blâmes. Mais attention, quand je dis ça, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. comme je l'ai dit, dans toute société, une nouvelle minorité, la présence étrangère, suscite un certain nombre de bouleversements et qui vont tourner autour de ce qu'on va appeler aujourd'hui l'intégration, même si on ne s'est pas trop donné les moyens de définir ce qu'on voulait dire par intégration, sinon que ça ne veut pas dire assimilation, puisqu'avant on parlait d'assimilation. Pardon. Et que ce modèle a été abandonné. Le danger touche autour de ce qu'on appelle le communautarisme, d'une minorité marginalisée, un peu défavorisée, qui va trouver ses points de repère dans une réaffirmation identitaire. Et donc soucieuse de marquer la différence par rapport à la société ambiante. Et puis un autre défi majeur, et je n'ai pas besoin d'insister lourdement, si on pense au cas de Mohamed Merah, et donc de dérive violente d'une petite minorité imprégnée de cette idéologie du djihad au contact d'imams eux-mêmes extrémistes et marqués par à la fois l'anti-occidentalisme, je ne sais pas si c'est une nouvelle maladie, mais et l'antisémitisme. Et le cas dont on parle dans les médias aujourd'hui, ces jours-ci, est à cet égard très révélateur. Mais par un effet de miroir, je ne peux pas parler de ça sans dire un mot d'une autre dérive qui est celle de notre société. Et puisque j'ai mentionné Mohamed Merah, je vais aussi mentionner le Norvégien, Breivik. Alors bien sûr, c'est un cas particulier. On a la figure de l'extrémiste qui recourt à la violence, en l'occurrence la plus extrême. Et pourtant, ça serait difficile de nier que dans bon nombre de pays européens, il y a un anti-islamisme qui se développe. Alors, soit de manière active dans des groupes qui aujourd'hui encore sont minoritaires, mais de manière passive qui tend à pénétrer très largement dans la société, y compris jusque des leaders politiques. Je ne vais pas ici donner d'exemple. Mais ça manque qu'on ait conscience qu'il y a ces phénomènes de miroir et qu'on ne peut pas aborder un aspect sans aborder l'autre. Les causes de tensions sur lesquelles il y a un travail à faire et qui requièrent la bonne volonté des uns et des autres, et puis si intégration veut dire quelque chose, un effort de part et d'autre, mentionnons la mosquée. Construction de mosquées dont, la plupart des cas, on a une levée de boucliers, d'abord des voisins qui imaginent qu'ils vont être dérangés, peut-être un peu, mais aussi où les autorités donnent un permis de construire qui est remis en cause, etc. Dites-moi quand la mosquée de Marseille sera construite. Pour ne donner qu'un exemple, il y en a des positifs, on peut citer celle de Strasbourg. Mais voilà un lieu qui pourrait être un lieu de véritable échange. On ne met pas des mosquées n'importe où, à n'importe quelles conditions, mais la liberté religieuse requiert le droit d'avoir un espace adapté aux besoins de la communauté. L'école est un autre lieu de socialisation où on apprend à vivre dans la différence et où on voit apparaître des crispations. L'affaire du foulard qui prend une importance particulière en France, plus que dans d'autres pays, alors que la vraie question, c'est évidemment l'égalité des garçons et des filles. C'est la chance de l'accès à l'éducation et à vivre ensemble où les uns et les autres sont respectés. Nourriture, vous me direz, bien sûr que la nourriture... sujet à discussion ici ou là. Enfin, personne n'a jamais été obligé de manger du porc et on peut, même si le vin fait partie de notre culture, accepter que certains ne boivent pas de vin. En tout cas, respecter l'abstinence qui est la règle chez les musulmans. Des aménagements sont possibles, mais on peut aussi dresser sur le même thème, les uns contre les autres. Et ma première expérience de dialogue en Inde a été précisément alors qu'on réunissait des sikhs, des bouddhistes, des musulmans, des hindous et des chrétiens, a été la question du repas. parce qu'il était évident que le musulman devait manger de la viande et que l'hindou ne pouvait pas manger de la viande. Et on a passé un temps fou, alors que bon nombre de végétariens auraient sûrement survécu à notre repas. Mais pour moi, ça reste révélateur. Si on peut s'accrocher sur quelque chose et, à partir de là, affirmer des identités ou, au contraire, rechercher des passerelles. Un autre exemple, c'est bien sûr la question des cimetières, qui continue à faire débat, notamment en Suisse, comme si les morts allaient nous menacer et comme si des solutions pratiques ne pouvaient pas assez facilement s'imposer. Si une croix dressée dans un cimetière ne remet pas en cause la laïcité, je ne suis pas sûr qu'un carré musulman soit un obstacle insurmontable. Mais voilà, on peut l'utiliser les uns contre les autres ou au contraire travailler ensemble pour ce vivre ensemble qui nous est de fait imposé. Et c'est ma conclusion. En dernier point, dans notre approche de la minorité musulmane, je crois que nous ne devons pas oublier que le monde musulman a longtemps été le défi le plus sérieux de l'Europe. Hein. Ni d'ailleurs que l'islam a offert la plus grande résistance aux missions chrétiennes. D'un autre côté, je l'ai dit, le monde musulman s'est vu surclassé par l'Occident dans les domaines scientifiques, techniques, et a subi de plein fouet le choc de la colonisation. Donc je pense qu'il ne s'est pas encore entièrement remis. Alors, ce n'est assurément pas en rejetant l'islam et les musulmans que l'on peut préparer la voie à la coexistence dans un État démocratique qui se veut fondé sur le respect des droits humains. Mais ce n'est pas non plus en fermant les yeux à un certain nombre de divergences historiques, culturelles et religieuses qu'il nous faut assumer. Et pour ça, c'est un appel à mieux connaître notre propre histoire, aussi bien que l'histoire et l'actualité des autres. Pour s'engager dans le dialogue, et j'arrive à ma conclusion, je crois qu'il nous faut sortir des définitions statiques. Ce qui revient à identifier l'islam à certaines de ses manifestations historiques ou à le figer dans telle ou telle formulation dogmatique. En réalité, comme toutes les religions, christianisme compris, l'islam est moins un système de croyances et de pratiques qu'une voie qui oriente la pensée et la vie des musulmans et qui ne cesse d'évoluer au gré des siècles et des circonstances, au gré des rencontres des cultures telles qu'on le connaît aujourd'hui. Nous sommes piégés par nos ismes, mais le christianisme, la même chose, qui voudrait qu'on a des systèmes et que les systèmes, évidemment, au mieux tourne comme ça dans le ciel des idées, mais ne se rencontre pas. Et je crois essentiel aujourd'hui que l'on revienne à une rencontre véritable où les personnes, et lorsque vous connaissez un musulman, ou lorsqu'un musulman connaît un chrétien, ou lorsque des liens se sont tissés, parfois ça prend du temps. Il faut dégager un certain nombre d'avis, un certain nombre de préjugés. Eh bien, c'est à ce moment-là que véritablement on peut parler de rencontre, de dialogue islamo-chrétien. Une meilleure manière de rejeter l'autre, c'est de le figer dans une image dans laquelle il ne se reconnaîtra pas. Mais c'est vrai dans l'œcuménisme, entre catholiques, protestants ou de différentes églises évangélique. Un autre piège que nous pouvons éviter dans cette voie vers la compréhension, c'est l'amalgame entre les musulmans qui vivent en Europe et des situations concrètes de l'islam, que ce soit en Arabie Saoudite, en Afghanistan, au Soudan ou au Nigeria. Ce ne sont que quelques exemples. Moi, j'aimerais rappeler avec force qu'un musulman ou une musulmane du Maghreb, de Turquie ou des Balkans n'est pas responsable de ce qui se passe dans l'islam d'Arabie Saoudite, du Soudan ou du Nigeria. Pas plus qu'un chrétien, un Sicilien, n'est responsable du christianisme, de ce qui se passe, que ce soit en Norvège ou que ce soit au Chili, dans le régime de Pinochet. Je crois qu'il nous faut délibérément casser ces amalgames qui sont tous réducteurs. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, si l'islam dérange, c'est peut-être parce qu'il apparaît comme une religion après la religion. Je m'explique. On nous a largement annoncé la laïcité, la sécularisation comme la dernière étape de notre société. Et voilà que ressurgit du religieux qu'on pensait avoir cantonné dans la sphère privée et qu'il apparaît sur la place publique et suscite le débat. Mais pour les chrétiens non plus, ce n'est pas si simple. Cette religion qui vient après Jésus. Le Bouddha, c'est plus simple. D'abord, c'est loin, mais il y a aussi des siècles qui font que le Bouddha précède Jésus, que nous recevons comme la dernière révélation de Dieu. Et donc nous avons là un travail à faire, je crois, sur cette notion implicite. Alors on dirait, les musulmans nous le rendent bien, puisqu'ils considèrent que Mohammed est le sceau des prophètes et que le Coran est la dernière révélation. Eh bien, je crois que ça, c'est notre défi. Et là, je veux laisser la porte ouverte. Je ne viens pas avec une réponse, mais je crois qu'on ne fera pas l'économie de cette question fondamentale, de la légitimité de l'autre. Non seulement c'est un accident de l'histoire, mais il a sa place pleine et entière dans le projet de Dieu, même si, à vue humaine, nous ne le comprenons pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et comme je l'ai dit au début, me réjouis de l'échange des questions, sachant que je n'ai fait que toucher quelques aspects.